France Inter. Je suis une vieille blanche hétérosexuelle, cisgenre, mère de famille, grand-mère d'origine petite bourgeoise, appartenant à un milieu privilégié, engagée à gauche depuis des décennies et croyant encore en elle. Autant vous dire que je ne suis pas du tout à la mode, mais je suis féministe et c'est ce qui me définit le mieux. Et le féminisme est, paraît-il, à la mode ? Vraiment ?
On a une dynamique de recul et de régression des droits des femmes partout dans le monde, alors qu'il n'est pas de la même intensité. On pense aux restrictions à l'IVG en Argentine, en Italie et en Pologne. Il y a des systèmes d'infériorisation des femmes. C'est le cas du régime des talibans. C'est le cas en Iran avec des lois de discrimination des femmes. Et on a des systèmes où on a une égalité dans la loi, mais une inégalité qui peut persister dans les faits.
Elle a passé de longues années à interviewer artistes et intellectuels sur France Culture, sur France Inter, et sa curiosité s'exerce toujours à la télé, sur les réseaux sociaux de France Inter, TikTok, Facebook, YouTube, et à travers des podcasts consacrés aux femmes d'exception sur l'appli Radio France. La lecture de Simone de Beauvoir, l'enseignement de Gilles Deleuze à Vincennes, les séminaires de Jacques Lacan, les cours à Jussieu de l'historienne Michel Perrault lui ont donné le goût des autres et du savoir. L'assurance aussi qu'il faut défendre le droit des femmes dans des livres, des tribunes, des émissions, avec acharnement, mais sans violence à l'égard des hommes. Je vous salue, Laure Adler.
Bonjour Vincent Josse.
Heureuse d'être en direct dans un studio de radio.
Ça me rappelle des souvenirs.
Je ne vois pas de quoi vous parler. Vous avez choisi d'inviter Shirin Ardakani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi féministe, vous êtes franco-iranienne, avocate en droit des étrangers. Vous avez créé le collectif Iran Justice pour documenter les exactions du régime iranien. Et vous défendez, entre autres, Narghez Mohammadi, militante emprisonnée en Iran et prix Nobel de la paix 2023. C'est le Grand Atelier sur France Inter.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Quand avez-vous compris la première fois, Paul Auster, que le souffle du vent sur votre visage vous faisait plaisir ?
Ah, quelle question !
Que vous racontait votre grand-mère maternelle quand vous étiez petit, Étienne Balibar ?
Est-ce que vous avez trouvé ça ?
Quand et comment avez-vous compris, Jean-Louis Murat, que votre grand-mère avait des dons de sorcellerie ? Pourquoi, Nicolas Mathieu, demandez-vous à vos parents, à l'âge de 7 ou 8 ans, comme cadeau d'anniversaire, une machine à écrire en plastique ? Pourquoi il n'y avait pas de télévision chez vos parents quand vous étiez petit ? Pourquoi vous cachiez-vous, Todd Haynes, quand vous étiez tout petit, sous la table de la salle à manger ? Enfant non désiré, Alain Badiou ? Vous en êtes sûr ? Pourquoi vos parents ont-ils décidé de ne pas vous déclarer quand vous êtes né, et ce pendant 40 jours, Daniel Herbide ?
Je ne sais pas qui vous l'a dit.
Surdouée, Alice, vous êtes une surdouée ? Quelle différence faites-vous, Charles Frégé, entre voir et regarder ?
Laure Adler et l'art de la première question.
Bah, elle n'est jamais préméditée, la première question, elle n'est jamais préparée. Elle vient dans le regard de l'autre et elle résulte d'un long travail assez minutieux de documentation sur les personnes que j'ai la chance d'interviewer et qui ont eu la gentillesse d'accepter cette invitation. Et je ne sais pas du tout quelle sera la première question et encore moins la dernière.
Quel est le but de cette première question ?
Généralement, je trouve que, en tant qu'historienne, ayant fait de longues études de philosophie, que j'ai repris pour mon plus grand bonheur il y a 3 ans, que les questions les plus intimes, celles qui ont trait à l'origine, celles qui ont trait à l'interdit, celles qui ont trait à l'imprononçable ou au difficilement pensable, sont peut-être justement une bonne manière de commencer une conversation.
Vous attendez quoi de la personne en face de vous ?
Pas forcément qu'elle réponde. Quelquefois, des personnes ne répondent pas. Quelquefois, des personnes pleurent à l'antenne. Ça m'est arrivé dans ce studio même. d'autres personnes se sont levées, se sont dévêtues et ont commencé à danser. D'autres sont parties dans le couloir et ne sont jamais revenues. J'attends qu'il se passe quelque chose.
Oui. Vous aimez les incidents ?
Pas forcément. J'aime que ça soit comme dans la vie, la radio. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, j'ai été déjeuner dans un bistrot. Et évidemment, il y avait beaucoup de monde et j'entendais la conversation de mes voisins. Ben, je voudrais que ça soit comme une conversation dans un bistrot.
Je comprends ce que vous voulez dire. Chérine Ardakani, vous êtes aussi une femme de parole, hein, éloquente. Est-ce qu'il y a un lien peut-être entre la femme de radio qu'est Laure Adler et l'avocate que vous êtes ?
Oui, je crois. Et pour répondre, la première question, elle est fondamentale. Moi, j'en ai une. Pourquoi partout les femmes meurent d'être femmes ? C'est le cas de Jina Mahsa Amini qui a été tuée parce que c'est une femme qui a refusé de se soumettre. Et l'avocate que je suis, très rapidement dans les prétoires, en pose une autre. À qui profite le crime et qui est-ce qui tue les femmes partout ?
Ces questions, vous les posez quand ? À qui ?
Alors, je les pose comme avocate. Je suis présidente d'une association, Iran Justice, qui précisément documente les crimes de l'État iranien, qui se pose dans une démarche qui est celle de la vérité pour toutes celles qui sont mortes et celle de la justice. Et aujourd'hui, je le dis d'autant plus que celle que je défends, Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, est une femme qui s'est toujours battue, qui en paye d'ailleurs le prix, un prix extrêmement lourd, puisqu'à l'heure où je vous parle, elle est incarcérée par ce régime iranien qui n'est pas qu'un régime misogyne, qui est un régime militarisé et qui est aussi une théocratie. Et c'est au fond toute les forces les plus existentiellement redoutables pour les femmes, mais aussi pour les peuples. Et je suis, je crois, aussi issue d'un peuple, le peuple iranien, qui paye le prix du soulèvement. Voilà, donc ça, c'est toutes les questions, je crois, que je me pose comme militante féministe, comme avocate. Et on trouve un chemin ici commun, je crois, Laure Adler et moi-même.
On va
J'ai
continuer.
Beaucoup d'admiration.
Bien sûr, vous allez nous expliquer
pourquoi
dans un instant, Laure, parce que je voudrais qu'on écoute une jeune femme qui évoque en chanson son adolescence, ce qui n'allait pas quand elle était jeune, l'absence de père, sa couleur de peau différente des autres, la honte de soi, les errances. Cette jeune femme, c'est Camille Yembe. Je ne l'ai jamais dit à personne.
Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Qu'en sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. Un nouveau problème, un nouveau petit aimant. S'installe à son tour dans l'appart, dans le salon. Je passe de temps en toi, de virage en virage, drôle de vie incertaine. Vol à l'étalage pour une belle paire d'Adidas, ça fait beaucoup trop de semaines. Qu'un nœud dans l'œsophage, jouer l'entourage, je crois que j'avais perdu la tête. Jamais, jamais dit. Que maman oublie mon prénom.
Vincent Josse, sur France Inter.
Je les ai lues, écoutées, aimées. Elles nous ont construites, bouleversées, changées. Elles sont toutes des femmes d'exception et c'est leur vie que je vais vous raconter.
Voilà vos premiers mots, Laure Adler, en ouverture des épisodes de votre podcast sur l'application Radio France, Femmes d'exception. Vous racontez des vies, vous racontez des destins féminins sans craindre de mêler au récit des souvenirs personnels. Ici, avec Simone de Beauvoir, vous le racontez, il y a la jeune Parisienne qui s'est sauvée de Clermont-Ferrand à 17 ans, avec dans sa valise un livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe.
Je ne dis pas de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, mais de réserver toujours une certaine zone de liberté, de solitude, que ce soit pour rêver, pour lire, pour écouter de la musique, pour penser, pour n'importe quoi, mais enfin, une zone de solitude et de liberté.
J'avais les mains moites et je tremblais lorsqu'avec mon amie Martine, nous avons poussé pour la première fois la porte tambour d'un célèbre café de Saint-Germain-des-Prés, où l'on avait lu dans un journal qu'elle passait ses matinées. Oui, Simone de Beauvoir était bien là, à l'encoignure des deux banquettes, les cheveux tirés en arrière, la veste boutonnée jusqu'en haut, impeccable, les yeux baissés sur des feuilles de papier qu'elle corrigeait. Nous nous sommes assises loin d'elle, intimidées mais néanmoins curieuses de l'apercevoir et peut-être d'avoir la témérité d'aller lui parler. Nous n'avons pas osé.
Laure Adler, est-ce que je peux résumer ça ainsi ? Simone de Beauvoir est à l'origine de votre engagement féministe.
Oui, c'est sûr. Comme beaucoup, beaucoup de personnes, et à travers les générations, je m'aperçois aussi que des jeunes femmes, quand elles lisent les textes de Simone de Beauvoir, peuvent s'éveiller au féminisme. Donc c'est notre plus grande théoricienne du XXe siècle. Ces livres se lisent avec beaucoup de passion et ne sont pas usés par les décennies depuis leur parution. Au contraire, ils acquièrent encore de plus en plus de force, car Simone de Beauvoir allie à sa propre réflexion des démonstrations historiques et politiques. Et d'autre part, elle dégage des structures de domination qu'on appelle aujourd'hui de manière courante, le patriarcat, etc. Donc elle fait les trois à la fois, et en plus elle est facile à lire, et en plus elle est drôle à lire.
Et puis elle parle de l'amour.
Et en plus, elle permet cette chose extraordinaire qu'ont les livres fondamentaux, c'est qu'on a envie d'en parler à d'autres. Donc elle entretient une passion pour l'émancipation, le désir d'émancipation. Et c'est vrai que quand j'ai lu pour la première fois Simone de Beauvoir et que j'étais extrêmement jeune, je me suis dit, peut-être que je suis capable aussi de vivre ma liberté, de la conquérir, de comprendre mon rapport au monde, de le vivre complètement, et ce, dans une solidarité. Mais j'ajoute que Simone de Beauvoir s'est inscrite pour moi dans un temps de réveil de mon identité de fille, à un moment quand même qui était l'après-68, c'est-à-dire la contestation de tous les pouvoirs, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir prendre la connaissance comme un éveil personnel, existentiel de nos existences respectives, et non pas comme l'administration de connaissances sédimentées, extérieures à nous-mêmes, etc. Et donc tout ça a participé d'un mouvement de révolte. Nous, qui étions avec mes copines inscrites plutôt dans une extrême gauche contestataire, nous avons rapidement constaté que nos camarades gauchistes, qui soi-disant voulait faire la révolution et faire changer le monde et ébranler le monde étaient quand même ceux qui, vers midi et demi, une heure moins le quart, nous demandaient d'aller chercher les sandwichs et qui, généralement, en fin d'après-midi, nous demandaient de faire les polycopiers de leur propre mot d'ordre.
Qu'est-ce que vous
répondiez ? Parce que nous n'étions pas capables, à leurs yeux et dans leur tête, de forger des théories.
De là, votre révolte, à ce moment-là, déjà.
Et c'est comme ça qu'est né le mouvement de libération des femmes.
Oui, auquel vous avez appartenu.
Nous sommes capables, nous aussi, de produire du théorique, nous aussi, de pouvoir faire changer, évoluer la société, nous aussi, de faire des actes politiques qui vont peut-être attirer l'attention, et nous aussi, chose la plus importante, d'être solidaires dans un collectif qui va essayer de faire bouger les lignes de la domination femme-homme.
Shirine Ardakhani, avocate franco-iranienne. Est-ce que j'ai raison d'ailleurs de dire franco-iranienne ou...
Oui, tout à fait, c'est tout à fait le
cas. Vous avez grandi en France.
Je suis même née à Paris,
vous êtes née en France,
deux parents exilés iraniens.
Vos parents étaient exilés et vous entendez là une partie de notre histoire tout court, une partie de l'histoire du féminisme et de l'histoire tout court. Est-ce que ça vous rend un petit peu nostalgique d'une époque que vous n'avez pas connue ?
Alors non, parce que moi j'ai grandi avec les textes de Simone de Beauvoir et aussi de Gisèle Halimi, puisque moi je suis avocate et si j'ai prêté serment, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai lu La cause des femmes de Gisèle Halimi, qui d'ailleurs parle elle-même de ses combats avec son association à l'époque Que Choisir, aux côtés de Simone de Beauvoir et d'autres. Et pour moi, la phrase qui m'amène au féminisme, c'est celle-ci, celle de Gisèle qui dit « Le féminisme est une conquête des femmes sur elle-même. » Et je crois que c'est très vrai parce que ce que vous avez dit, Charlotte, est très juste. Dans cette lutte pour se libérer de ces chaînes, en réalité, les femmes apprennent non seulement à se découvrir, mais le mouvement de libération des femmes dont vous avez parlé, il crée non seulement cette émancipation, mais aussi il libère des peuples parce que j'ai là un ouvrage devant moi des Iraniennes Femmes, Vie, Liberté de 79 à nos jours, qui est un livre auquel j'ai participé et qui a été écrit par des femmes, des anciennes militantes qui le sont toujours, du mouvement de libération des femmes, qui dès 79 étaient venues en solidarité avec les Iraniennes qui marchaient déjà contre l'ayatollah Khomeini, dont le monde entier avait dit qu'il était venu à l'époque comme un grand sauveur, mais déjà des femmes s'étaient opposées dans cette grande marche en 79.
Je vous propose d'en écouter une.
Voilà.
Témoignage d'une femme iranienne. C'était à la télé, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Aujourd'hui, madame, que vous avez connue, alors vous y avez travaillé.
J'ai présenté aujourd'hui, madame.
Présenté aujourd'hui, madame. Certains auditeurs s'en souviennent et auditrices. Et il y avait ce témoignage d'une femme dont le visage était couvert, bien sûr.
Pourquoi vous avez manifesté ?
Parce que M. Khomeini, d'abord, il avait dit que les femmes sont tout à fait égales aux hommes. Mais aussitôt qu'il était ici, il a commencé de parler comme quelqu'un de Moyen Âge, on peut dire. Et maintenant, nous nous sentons dans les prisons, justement. C'est difficile de respirer, même maintenant. Nous sommes au bord de perdre tout ce que nous avions eu jusqu'à maintenant. Maintenant, on n'ose pas dire ce qu'on veut dire. Et puis, les gens qui pensent comme moi sont en danger d'être tués, emprisonnés et maltraités.
Sous le régime du Shah, il y avait plus de liberté pour toutes les femmes en Iran que maintenant ?
Je crois que oui. Je ne peux pas parler de toutes les femmes. Je peux parler des femmes qui voudraient étudier, qui voudraient travailler. Nous étions comme vous en Europe.
Ce témoignage a près de 50 ans. Shirine Ardakhani, on a l'impression qu'il pourrait être de 2026.
Oui, mais parce qu'au fond, c'est toujours la même histoire qui se répète. Les femmes avertissent du péril, mais les hommes ne les écoutent pas. Et je crois que c'est ce que vous disiez, Laure Adler, tout à l'heure, lorsque, y compris les camarades révolutionnaires, vous expliquent que, d'abord, on va libérer du capitalisme, et puis pour la liberté des femmes, on verra ensuite. Parce que, là, je vais citer Madeleine Pelletier, qui est une grande militante féministe, qui est une première femme française à accéder, notamment, à un doctorat, qui est doctoresse, donc médecin, qui va gagner par la force de son travail le concours à la psychiatrie, et qui disait, quand elle se rendait dans les réunions socialistes de l'époque, eh bien, quand elle réclamait le droit de vote pour les femmes, eh bien, il y avait des camarades révolutionnaires pour dire « le socialisme vous libérera ». Donc, au fond, c'était le même récit pour les Iraniennes. Dès 79, elles avaient vu le péril. Dès 79, elles avaient dit « Khomeini est un islamiste et, bien sûr, ce n'est pas le défenseur des libertés ». Mais il y avait là, par cécité, je crois, à l'époque, et ce n'était pas que leurs camarades, il y avait la grande lutte des Occidentaux. Certains, d'ailleurs, les Américains avaient dit « c'est d'abord le ruban vert contre le ruban rouge ». Il faut rappeler qu'on était là à l'ère de la guerre froide, et eh bien, Khomeini, il y a eu des gens non seulement pour l'accueillir, hein, il a trouvé refuge ici de bonne grâce en France, qui lui a donné l'asile, mais parce que il y a des gens qui pensaient que les islamistes pouvaient être eh bien, un rempart. Mais les femmes avaient averti, ce n'est le rempart de personne, et au fond, on se retrouve ensuite à lutter contre ce régime qui a été à la fois une théocratie totalisante, et pour les femmes, et pour l'ensemble de la société, parce que c'est là quelque chose que je voulais dire. Vous savez, lorsque Khomeini...
On va donner la parole à Laure après.
Oui,
hein.
Pardon. Je termine là-dessus. Lorsqu'il arrive, il ne dit pas tout de suite... qu'il va s'en prendre aux femmes. On commence d'abord par la loi qui impose le voile obligatoire, et puis peu à peu, c'est l'ensemble des libertés publiques qui sont rabougries dans la société. Donc on commence toujours par le contrôle du corps des femmes, pour qu'ensuite ça exerce un contrôle social sur l'ensemble de la société.
Pourquoi vous intéressez-vous particulièrement à ce qui se passe en Iran en ce moment, Laure Adler, puisque votre invitée est franco-iranienne, je le disais à l'instant.
Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Shirin, pour son travail d'avocate, pour son travail de présidente de l'association, parce que nous militons, et je milite dans son sillage, et je vais à toutes les manifestations qu'elle organise pour défendre l'honneur et la dignité des femmes iraniennes, parce que la tragédie que nous avons connu il y a quelques semaines, qui s'est abattue sur le peuple iranien, cette tragédie finalement est assez occultée, je trouve, dans la sphère médiatique. Moi, personnellement, je sais que c'est important, mais si on parlait un peu moins d'Epstein et si on parlait de ce qui est en train de se passer en Iran, c'est peut-être quand même beaucoup plus important collectivement pour notre sort. Et donc, je voulais, à travers cette invitation, honorer le combat permanent que fait Shirin pour les droits des femmes en Iran, mais parler aussi du sort des Iraniennes et du sort des Iraniens aujourd'hui, parce que Shirin, d'après ce que je sais, et Shirin avait accepté de participer à un podcast sur Mahsa Amini, et d'après ce que je sais...
Qui est morte, qui a été assassinée.
Qui a été assassinée.
Parce que son voile avait glissé.
Son voile avait glissé.
Elle a été
glissé,
emprisonnée, et on l'a retrouvée.
Emprisonnée et tuée sans explication par la police iranienne. Ouais. Mais la situation aujourd'hui en Iran, dont on parle très peu dans la presse française, quelle est-elle? Et je crois savoir que nous allons arriver à une phase extrêmement cruciale, puisque nous allons arriver à cette cérémonie rituelle qui existe en Iran, c'est-à-dire le deuil, un rituel de deuil qui commence au 40e jour de ce qu'on peut appeler quoi? Est-ce que le mot massacre, est-ce que le mot tragédie, qui concerne 30 000 personnes tuées, plus de 50 000 personnes emprisonnées, arrêtées, blessées, arrêtées, est-ce qu'on peut employer ces mots de massacre? Est-ce qu'ils sont assez forts, ces mots-là, pour définir ce qui s'est passé en Iran il y a quelques semaines?
Shirin Ardakhani.
Alors, Laure Adler, vous faites évidemment référence à la répression, mais plus que de la répression, vous avez raison, implacable avec laquelle ce régime a tué la contestation qui est née dès le 28 décembre dernier. Les Iraniens se sont massivement soulevés, comme ils l'avaient déjà fait en 2022 lors du mouvement Femmes et Liberté, pour dire une chose, qu'ils veulent la fin de cette dictature épouvantable.
Arrivez-vous à chiffrer le nombre de victimes ?
Alors, c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, au plus bas mot, on parle de 30 000 morts en deux jours. Donc, c'est ce que dans toute l'histoire du pays, et même dans les pires massacres que nous avons pu constater, en deux jours, 30 000 morts, c'est évidemment au-delà de l'imaginable, avec des milices qui sont celles des gardiens de la Révolution, qui pour réprimer ont utilisé des armes extrêmement lourdes à l'encontre des manifestants désarmés et pacifiques. Donc ça a un nom en droit, c'est ce qu'on appelle un crime contre l'humanité. Le fait d'attaquer des civils désarmés qui manifestent pacifiquement, ça n'a pas d'autre qualification que cela. Et nous parlons effectivement de plus de 50 000 personnes arrêtées dans les prisons politiques épouvantables du pays, avec un recours massif à la peine de mort, parce que je rappelle que le régime iranien est aussi épouvantable en ce qu'il fait de cette arme un outil pour faire taire les dissidents.
Oui, il y a de nombreuses années que des jeunes hommes, par exemple, sont pendus.
Bien sûr, et à l'heure où je vous parle, un jeune lutteur qui a 18 ans se trouve dans les couloirs de la mort et risque l'exécution tous les matins.
Comment faites-vous de France pour défendre les familles de ces victimes ?
Alors, nous, ce que nous faisons, c'est que nous documentons déjà cela, parce que là où le régime iranien est impitoyable, c'est que comme tous les régimes, comme le régime chinois, comme le régime russe, eh bien déjà, ils falsifient la réalité. Il refuse de reconnaître la responsabilité de ces crimes avec des récits qui sont alternatifs. Je rappelle que c'est orwellien. Il y a un ministre de l'information qui relie les scripts qui ensuite sont diffusés dans la télévision d'État. Donc déjà, il faut refaire le récit, le narratif, il faut compter les morts. Et à l'heure où on se parle, les Iraniens endeuillés vont célébrer le 40e jour dans la tradition chiite. Eh bien, au 40e jour qui suit la mort, eh bien on va sur les sépultures et on chante nos morts. Et donc, à l'heure où on se parle, les Iraniens comptent leurs morts et vont célébrer par la musique, et c'est là où ils sont subversifs, c'est qu'ils refusent la martyrologie, ils refusent de s'apitoyer, et ils vont aller chanter sur les sépultures de leurs morts pour dire que les vivants, eh bien, continuent dans leur cri de résistance.
Shirin Ardakani, Laure Adler, on va faire une petite pause musicale. Vous allez voir, elle est très courte, cette pause musicale. C'est quelqu'un, peut-être une femme d'exception dans la chanson, dans le cinéma, c'est quelqu'un que vous aviez programmé quand vous étiez directrice de France Culture au Festival d'Avignon, Ingrid
Cavène.
Oui, Ingrid Cavène, chanteuse, actrice.
J'adore.
Et je sais, c'est une de vos femmes chouchous d'exception. Elle chante entre autres Fassbinder, mais aussi Jean-Jacques Schoul. Cette très jolie petite chanson, La, La, La.
Ce temps-là, moi je fais la 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 la. Le temps passera, tout ça s'effacera, l'histoire coulera, on ne sera plus là. Ce temps-là, moi je regarde toutes ces choses-là, j'écoute tous ces trucs-là, et je fais la 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 la, on chantera la 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 la, on dansera la 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 la, je ne serai plus là.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Nous allons parler un petit peu d'hier avec Laure Adler, qui est journaliste et qui est une femme, donc qui s'est intéressée aux femmes et aux journalistes, aux premières femmes journalistes. Votre livre, Laure Adler, qui s'appelle « Les premières journalistes à l'aube du féminisme », Pourquoi avoir commencé en 1830? Est-ce qu'il n'y avait pas de femmes journalistes avant 1830?
Bien évidemment, il y en avait. Il y en a eu au moment de la Révolution, ça, oui. Tout le monde le sait. Mais ça a été non pas des journaux, mais ça a été sous forme de tracts, sous forme d'affiches qui étaient distribuées dans la rue, et puis ça n'a pas duré. Alors qu'en 1832, pour la première fois, je crois, dans l'histoire française, il y a des femmes qui ont décidé de s'organiser, de mettre ensemble leurs économies, car elles étaient des femmes ouvrières, c'était des prolétaires. En grosse majorité, d'ailleurs, c'était des couturières et des lingères. Elles savaient lire et écrire, mais tout juste, c'était pas du tout des intellectuels. Et elles ont décidé de faire un journal avec leurs maigres économies.
72, votre première télévision, Laure Adler, dans... 79, pardon, dans un monde d'hommes. 72, pardon.
Mais c'était en fait la publication de ce premier livre, c'était... La publication de ma thèse que j'avais faite autour de ces femmes extraordinaires du 19e siècle qui ont été d'ardentes féministes et qui ont révolutionné la presse féministe. Elles étaient issues des mouvements utopistes, notamment du mouvement saint-simonien. Elles étaient d'origine effectivement prolétaire et elles ont décidé de prendre le sort de toutes les femmes en main. Après la révolution de 1830, et puis ensuite, lors des deux révolutions de 1848, elles ont de nouveau recommencé leur combat pour l'émancipation. Leur combat s'articulait autour d'une thèse principale et d'un combat essentiel, c'est-à-dire de devenir des citoyennes comme les autres, des citoyennes à part entière. Cela remontait à 1789 parce que les femmes étaient déjà dans la rue, elles étaient en tête des manifestations en 1789.
Vous les avez toujours admirées, ces femmes.
Mais non, mais force est de constater qu'historiquement, révolution et droits des femmes sont indissolublement liés et qu'à chaque fois qu'effectivement le pouvoir est ébranlé, le pouvoir présente une faille, eh bien les femmes qui sont de différentes origines socialement vont s'unir pour essayer de réclamer leurs droits leurs plus essentiels, les plus élémentaires. En l'occurrence, c'était le droit de vote. Et effectivement, ce premier livre décrivait le combat de ces femmes après la révolution de 1830, des femmes plutôt prolétariennes, mais qui avaient réussi jusqu'aux deux révolutions de 1848 à agréger les forces des femmes bourgeoises féministes qui, dans les salons littéraires, militaient aussi pour devenir des citoyennes comme les autres.
Vous l'avez encore
hélas,
vous l'avez encore
ça
en tête,
n'a pas marché.
Cette thèse.
Ah bah
c'est
oui,
fou,
moi
vous êtes encore pleine de votre
cœur.
Sujet.
Ah bah oui, si je peux citer le nom de toutes ces femmes que j'admire et qui ont été nos lanceuses d'alerte.
Vous commencez seulement à les citer et à raconter leur vie dans vos podcasts, c'est encore assez frais. C'est encore un nouvel exercice que vous pratiquez, Laure Adler. Il y a eu Gisèle Halimi, Simone Veil, Duras, Anna Arendt, Toni Morrison, Simone Veil, Dolto, Mahsa Amini. Et il y a désormais, entre autres... une femme qui fut une grande comédienne et une grande militante des droits des femmes.
Qui a ségrégué les femmes? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit? Les hommes peuvent flâner à toutes les heures de la nuit. Qui commet les viols? Est-ce que c'est les femmes qui violent les hommes? Qui fait la ségrégation? Qui tient tous les journaux politiques? Je ne parle pas des journaux féminins qui vous apprennent la mode et la couture, mais je parle des journaux politiques qui sont entre les mains de qui, d'une façon générale? Des hommes. Le mariage est une forme de, pour prendre un mot énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme, moyennant quoi elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner quand elle a un travail et que son mari a un travail aussi et que les enfants sont malades. Qu'est-ce qui reste à la maison? C'est la femme. J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles.
J'aurais dû dire aussi grande oratrice. Hein. C'est quelqu'un qui savait s'exprimer et peut-être déstabiliser les hommes.
Elle s'appelait Delphine Seyrig.
J'ai pas dit son nom, c'est Delphine Seyrig.
Mais on reconnaît sa voix, on reconnaît ses combats. Elle venait de très loin, elle avait une mère qui était une femme extraordinaire, qui avait dégagé pour sa fille des chemins de liberté très jeune, dès l'adolescence. Parce que c'est très important de souligner le lien mère-fille pour pouvoir comprendre de l'intérieur les chemins de conquête de cette émancipation féminine qui est toujours aussi, d'ailleurs, difficile aujourd'hui. Mais chez Delphine Seyrig, elle a eu, si vous voulez, une reconnaissance très jeune pour l'éclat de sa beauté et pour la profondeur de son intelligence. Elle est devenue une star très 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 jeune. Mais elle en a rien eu à faire. C'était comme un vêtement trop lourd. Cette beauté que les hommes lui assénaient toute la journée. Donc elle a intériorisé cette violence de cette beauté qui lui était adressée absolument sans arrêt en disant que c'était une négation de sa propre compétence à être un être humain comme les autres, et elle en a fait un instrument de libération,
et
elle a fait beaucoup pour la libération des femmes.
Et vous en faites un podcast, Femmes d'exception. C'est quoi une femme d'exception d'ailleurs ?
C'est une femme qui dégage le chemin des possibles. Je pense que le mouvement du féminisme est animé par la solidarité du collectif, par la force et l'impulsion que donne ce collectif. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aujourd'hui se dire féministes et qui pourtant sont des féministes. Et qui, sans arrêt, au cours de leur vie quotidienne, au cours de la solidarité qu'elles éprouvent avec des femmes qui sont dans des situations difficiles ou des situations de vulnérabilité, elles tendent la main, elles épaulent, elles montrent le chemin. Et je pense que ce féminisme de beaucoup, beaucoup de femmes doit être encouragé et ne peut être encouragé. Alors là, c'est la philosophe et l'historienne des femmes qui parlent, l'historienne tout court, que si dans les manuels d'histoire, on dit aux garçons et aux filles comme aux garçons, que dans notre histoire, il y a toujours eu des femmes d'exception. Parce que je crois que l'admiration est un carburant de notre démocratie et que cette admiration, elle fonctionne par identification. Et le fait que nous ayons des figures tutélaires qui nous permettent d'auréoler de lumière notre propre combativité nous permet justement tous les jours de combattre ces inégalités qui perdurent.
Dans un podcast, il faut savoir dire « je ». Vous n'avez pas appris à dire « je », moi non plus. Le podcast permet ça et vous vous êtes vite adapté. D'ailleurs, quand vous regardez et quand vous écoutez Delphine Seyrig, vous intervenez en tant que Laure aussi, Laure Adler.
Je me souviens de la semi-obscurité qui régnait sur le plateau du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. On distinguait à peine la grosse masse d'un piano noir et les mains de Carlo d'Alessio. Elle portait une robe blanche, elle s'appelait Catherine et murmurait à l'oreille de John, Sammy Frey, dans la vie son amoureux, qu'elle savait tout de son destin, mais qu'elle ne lui dirait rien.
Voilà, ça m'intéresse, cette évocation de La Bête dans la jungle, 1981, traduit d'ailleurs par Duras, mise en scène d'Alfredo Arias, parce que, le podcast permet une certaine subjectivité du regard. Et en plus d'un conte sur une personne, sur une femme, on peut s'autoriser des souvenirs personnels, peut-être pour le rendre plus fort.
Ben, c'est-à-dire que, comme je suis vieille et fière de l'être... La vieillesse permet la mémoire, mais pas au sens de la leçon. Oh là là, je suis vieille, alors je vais te rappeler ceci et oui. Cela que forcément t'as pas connu.
En revanche, un souvenir éclair.
Mais par contre, j'ai eu la chance, depuis que je suis jeune, jusqu'à aujourd'hui, maintenant que je suis vieille, de rencontrer des gens exceptionnels, d'avoir des émotions qui me restent à l'intérieur de ma mémoire. Et ces émotions sont pour moi des sources de lumière et d'enchantement et de réenchantement du monde. Et par exemple, ce bouleversement émotionnel qui m'a saisi quand j'ai vu Delphine Seyrig sur le plateau de théâtre, c'est quelque chose qui m'est resté en lettres de feu. Et si jamais je peux modestement transmettre cette admiration, transmettre ce feu sacré qu'elle nous a donné, et pas seulement elle, mais d'autres personnes, des femmes, mais il y a aussi des hommes qui m'ont aussi donné la possibilité de comprendre mieux le monde et de le réenchanter, eh bien, je trouve que la vieillesse sert aussi à ça, par des toutes petites choses.
Vous aimez Edgar Morin ?
Ah oui, mais qui n'aime pas Edgar Morin ?
Et en face de vous, vous avez Shirin Ardakani, donc avocate, qui a une idole aussi dans la justice. Le voici, en 1981.
Partout dans le monde, Et là, sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
Le discours pour l'abolition de la peine de mort, vous étiez en train d'acquiescer là avec le visage, avec votre tête. Qu'est-ce que vous ressentiez et en quoi Badinter est-il essentiel dans votre vie et de votre formation ?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, moi, il y a deux figures qui m'ont amené à prêter serment comme avocate. Il y a évidemment Gisèle Halimi, la cause des femmes, mais il y a aussi un confrère, Robert Badinter, à qui on doit beaucoup, nous, les avocats et les avocates, parce qu'il n'était pas juste avocat. Il a pris position contre la meute, contre l'opinion, en faisant cette belle et grande loi qui est une fierté, non seulement pour les Français et les Françaises, mais aussi pour tous les humanistes, je crois, parce que la peine de mort, nulle part au monde, n'est autre chose qu'un châtiment inhumain, cruel, dégradant. Je l'ai dit tout à l'heure, le régime iranien pend à l'heure de la prière, mais on peut aussi pendre de façon tout à fait laïque. C'est le cas dans certains États encore, aux États-Unis par exemple, où cette peine capitale est un crachat pour l'humanité. Donc oui, effectivement, moi je c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'être avocate, mais voyez, il n'y a pas de contradiction. Moi, je suis une militante féministe, d'ailleurs je le dis volontiers, plutôt radicale, et pourtant dans les prétoires j'ai fait le choix de défendre les agresseurs, ceux qui sont accusés des crimes sexuels. Et vous voyez que là, moi, je n'y vois aucune contradiction, parce que je crois que tant que j'arrive à les défendre, eux, eh bien, je reste connectée à l'humanité, à l'empathie que je peux avoir, minimale, avec l'autre.
Et vous parce dites que, il faut oui. que les femmes doivent défendre des agresseurs sexuels. Pourquoi des femmes particulièrement ?
Alors, moi, je ne dis pas que les femmes doivent. Je dis il faut des féministes aussi pour les défendre, cela,
ça, oui.
Dans la défense pénale. Parce que si les militantes féministes ne défendent que les parties civiles et les victimes, et c'est tout à leur honneur, moi, les consoeurs et les confrères qui défendent les parties civiles, et il en faut, évidemment, et je les y encourage, mais il faut aussi qu'il reste des féministes sur les bancs de la défense pénale. Parce que sans quoi, si on laisse les confrères, souvent ce sont des confrères qui utilisent la robe comme alibi pour ensuite aller défendre les agresseurs et jeter lors du procès en pâture celles qui sont en face, les victimes. Et on a vu des procès dans lesquels des confrères estimés ont dit à des victimes « Mesdames, vous êtes la honte, vous mentez » et qui utilisent ce temps de l'audience et de l'immunité de la parole de l'avocat, eh bien en réalité pour leur misogynie crasse. Et moi je le refuse et je pense que les féministes doivent investir les bancs de la défense pénale parce qu'il y a une autre défense possible des hommes. Tous les hommes peuvent être défendus, mais pas n'importe comment.
Laura Adler, peut-être un complément ou une question ?
Mais il y a plusieurs féministes qui effectivement exercent en ce moment au barreau et défendent les agresseurs. Et je pense que le raisonnement de Chérine est totalement argumenté, bien argumenté. Moi, j'ai une vision du féminisme qui permet d'imaginer qu'il faut toujours que nous réfléchissions sur fond d'universalisme.
C'est un mot que vous aimez bien.
Oui, parce que les droits humains doivent être respectés dans toutes les circonstances. Et pour pouvoir, non pas comprendre un agresseur, mais pouvoir défendre la victime, même quand on est l'avocate de l'agresseur, il faut une écoute qui va permettre, pour moi, et je l'ai vu et je l'ai entendu personnellement, des agresseurs se rendre compte du crime qu'ils avaient commis et de la possibilité de la compréhension du crime qu'ils avaient connu. Ça n'arrive pas souvent. Il y a la justice réparative. Elle n'est pas assez appliquée en France, mais j'ai assisté à des moments où effectivement des hommes qui sont qualifiés donc d'agresseurs et de violeurs parlent avec des femmes qui ne sont pas leurs victimes, mais qui sont d'autres victimes, pour pouvoir essayer de faire un cheminement. Tant qu'on n'apprendra pas aux petits garçons à l'intérieur des écoles à ne pas être violent, à ne pas exercer cette violence.
Vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Et tant qu'on n'apprendra pas aux petites filles qu'elles ne sont pas forcément obligées d'accepter cette violence, tant qu'on n'apprendra pas la réalité de l'égalité filles-garçons dans les écoles, et ce dès le plus jeune âge, tant qu'on n'apprendra pas non plus les principes élémentaires de la sexualité, on ne se sortira jamais de l'ornière de cette domination patriarcale qui existe depuis l'aube de l'humanité et que Françoise Héritier, en tant que grande anthropologue, avait théorisé sous le nom de masculin-féminin. Il faut que nous en sortions. C'est le moment où nous pouvons basculer de civilisation.
Je vais laisser répondre dans un instant notre avocate franco-iranienne Shirin Ardakhani, mais je voudrais qu'on écoute Rosalia, l'espagnole.
J'adore,
je sais que vous êtes fan.
Ouais.
En plus, vous avez écrit un livre sur les vierges. Récemment.
Ben oui, elle aussi, elle aime beaucoup les vierges.
Et elle, dans son dernier disque, elle chante les vierges, et même la Vierge Marie.
Oui, ben oui.
Le Grand Atelier, sur France Inter.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también. Estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará la lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda, desaparecerá. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional.
Voilà, Laure Adler est heureuse et nous aussi. Et est-ce que vous aimez aussi Rosalia, vous, Chérine ?
Tout à fait.
Vous savez que vous avez le droit de répondre à la question de Laure tout à l'heure, en tout cas à son point de vue, qui est que l'éducation est essentielle des filles et évidemment des garçons. Est-ce que ce respect des droits des femmes et des femmes tout court passe partout dans le monde par l'éducation d'abord ?
Oui, je crois par l'éducation, évidemment, mais aussi par la vérité et par la justice. Parce qu'il faut éduquer les hommes, mais il faut aussi les juger pour ce qu'ils font. Et pour répondre à la question tout à l'heure, pourquoi moi j'ai décidé de défendre les hommes ? Mais parce que si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais aussi bien leur réserver le sort que Judith, de Judith et Holoferne. Vous connaissez bien ce tableau de Artemisia Gentileschi.
Tout le monde ne le connaît pas.
Qui décapite la tête de l'homme agresseur qui est aussi venu pour affamer les enfants et pour violer les femmes. Alors évidemment, moi je suis contre la peine de mort, je vous l'ai dit, parce que je suis humaniste. Et donc ces hommes-là, on ne va pas leur réserver le sort de Holoferne. Il faut donc bien leur trouver une juste peine, une peine qui soit à la hauteur de ce qui a été infligé pendant 2500 ans et bien avant aux femmes qui sont cette chair à viol, pour reprendre les propos de Françoise, voilà, il faut bien les juger, et pour les juger, il faut les défendre. J'essaye pas de les comprendre. Moi, j'essaye pas de comprendre pourquoi est-ce que mes clients, ils font ça. Mais ils ont besoin d'être défendus. Et surtout, je veux pas qu'on dise que ce sont des monstres, parce que c'est jamais des monstres. C'est des hommes.
Ce sont les produits d'une culture qui leur a permis d'être ainsi.
Qui commettent
ces faits-là. Alors justement, il y a un livre...
Il ne faut pas les animaliser, Chérine, parce que sinon on les met en dehors.
Il y a un livre important qui vient de sortir, « Et la joie de vivre », Gisèle Pellicot, livre écrit avec la grande Judith Pérignon chez Flammarion. C'est votre coup de cœur, Laure Adler. Il faut lire ce livre.
C'est plus qu'un coup de cœur pour moi. C'est un livre extrêmement important, et au risque de vous choquer, je l'ai lu comme un livre de littérature. Et non pas comme un livre sociétal, de justice, d'explication. Je l'ai lu comme un livre qui nous entraîne à l'intérieur de nous-mêmes et qui me fait dire, et qui nous fait dire, parce que c'est un livre qui place Gisèle Pellicot comme notre sœur. Je la considère comme une sœur après avoir lu son bouquin, parce que son livre nous entraîne, nous appelle, nous bouleverse, parce qu'elle prend les mots au sérieux. Elle prend la vérité dont vous venez de parler depuis le début de cette émission au sérieux. Et elle se dit « Qui je suis ? Je ne suis personne. Et pourtant, je suis devenue quelqu'un à cause de l'atrocité de ce qui m'est arrivé et que je n'ai pas compris. »
Dominique Pellicot l'a droguée et des hommes venaient la violer sous ses yeux.
Oui, mais elle, et c'est pour ça que c'est un livre de littérature et c'est un livre bouleversant, c'est parce que les mots vont lui servir de cheminement intérieur pour pouvoir élucider sa propre histoire familiale, sa définition de l'amour, sa possibilité de s'inscrire dans le monde commun. Et petit à petit, à partir du moment où elle se rend compte avec beaucoup de difficultés de ce qui lui est arrivé à son insu et de ses 50 ans d'histoire avec son mari, eh bien, elle se dit... Je ne vais pas m'effondrer. Mon existence, elle était avant. Je vais continuer à vivre. Et je ne vais pas être une survivante. Je vais être une combattante de nos libertés. Et je vais dire ce que je pense, c'est-à-dire que je crois en l'amour, que je crois à la possibilité de la vérité, et que je crois à la solidarité de toutes les femmes.
Vous en parlez souvent de et ce mot, solidarité
oui,
entre les femmes.
Mais Elle nous montre le chemin d'une solidarité assumée, lumineuse, apaisée. C'est un exemple absolument éblouissant. Et en même temps, elle se prend pas pour quelqu'un d'exceptionnel.
Pour une icône.
C'est en cela que la banalité du bien, à travers une écriture extrêmement précise, ourlée, magnifique,
ça, c'est le talent,
nous entraîne...
Le talent de Judith Pérignon.
Je pense que c'est son talent, évidemment, de Judith,
ouais.
Mais je pense qu'elle a reconquis son identité grâce à la beauté de la langue française dont elle a su s'emparer.
Elle disait récemment...
Pour pouvoir dire hautement à toutes les filles, et surtout à celles qui ont subi les pires avanies du viol, que oui, elles ont une identité. Non, elles ne sont pas victimes. Oui, leur dignité est inentamée. Et oui, et à jamais, la honte, grâce à Gisèle Pellicot, a définitivement changé de camp.
Et merci, la joie de vivre. Merci Gisèle, et la joie de vivre. Gisèle Pellicot qui disait récemment « Les mots m'ont sauvé ». Qu'est-ce que c'est beau de pouvoir dire ça. Écrit donc avec Judith Pérignon, on l'a cité, chez Flammarion. Les mots, la littérature, Chirine Ardakani, la poésie.
C'était Françoise Daubonne que je cherchais tout à l'heure.
Grande féministe aujourd'hui,
bien
beaucoup
sûr.
Trop méconnue.
Je voudrais qu'on parle de cette poétesse iranienne qui est morte en 2014 et que vous nous conseillez, vous nous ordonnez même peut-être de lire. Elle s'appelait, elle s'appelle toujours Simine Bebahani.
Oui, tout à fait.
Pourquoi est-ce qu'il faut la lire ?
Il faut la lire parce que déjà c'était une grande militante pour le droit des femmes, mais aussi parce que elle nous a apporté une littérature de résistance, du refus de la soumission face au dictateur, face à l'oppresseur. Elle a connu les prisons politiques et au fond c'est une femme qui a refusé toute sa vie durant, malgré l'exil, parce que c'est aussi ça, hélas, le prix à payer souvent pour ces femmes, c'est celui de l'exil, c'est celui aussi de ma mère. Ma mère a dû fuir cette dictature qui l'a privée de son outil de travail. Et souvent, je vois aussi qu'il y a là un pattern, comme on dit, c'est-à-dire qu'on s'attaque au travail des femmes. Ma mère était infirmière. Elle était infirmière et pendant la guerre contre Saddam Hussein, pendant 6 ans, elle était dans l'enfer de la guerre, parce que la guerre est toujours aussi un enfer, mais davantage encore pour les femmes, parce que les pouvoirs militarisés, c'est-à-dire l'homme armé, souvent, eh bien, s'attaquent plus encore à ceux qui sont le plus vulnérables, et parmi eux, eh bien, il y a les femmes, et donc les milices qui réservent tout un tas de choses abominables et qui visent souvent, ça a été le cas là, pendant la répression en Iran, qui visent les parties génitales des femmes, eh bien, pour les détruire essentiellement par leur utérus, parce que comme vous le savez, utérus, ça vient quand on dit, par exemple, hystérie, quand on dit l'hystérie des femmes, eh bien, ça vient de utérus, donc c'est la matrice, Chirine, finalement, qu'il faut
anéantir. Il nous reste 15 secondes, je voudrais juste citer un petit poème, je te reconstruirai ma patrie, de Simine Bebahani. Même si je meurs à 100 ans, je resterai debout dans ma tombe, afin de faire disparaître le mal avec mon grognement. Je suis vieille, mais je peux rajeunir pour vivre une nouvelle vie aux côtés de mes enfants. Elle pourrait devenir une femme d'exception, Laura Adler.
Absolument.
Et Gisèle Pélicot aussi.
Absolument.
Merci d'être venue.
Merci à vous.
On vous retrouve sur l'appli Radio France et je remercie aussi pour son combat et ses mots, Chirine Ardakhani.